Donc, la Bible nous donne plein d'exemples de parents et enfants. Des fois, je médite ou je réfléchis sur l'exemple de Jessé et David, son fils, en tant que père. Jessé ne s'attendait pas à ce que David, le plus jeune de ses fils, soit choisi par Dieu pour devenir roi. C'est certain qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais lorsque Samuel est venu oindre le prochain roi, Dieu a rejeté tous les autres fils de Jessé et a choisi David. Pourquoi? Parce que Dieu a vu le cœur de David et c'est le type de cœur qui a été cultivé par des parents fidèles. Donc, on peut imaginer que le cœur de David avait été influencé par son père Jessé. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans ces choses-là dans la Bible, mais peut-être on comprend que celui qui était le plus jeune était quand même aimé. Le petit Benjamin de toute la famille était aimé d'une façon comme peut-être Jacob aimait Joseph. Si vous vous souvenez, Jacob aimait Joseph jusqu'au point que ses frères sont devenus agressifs et ils étaient enragés à cause de cette injustice à leurs yeux. Mais Dieu s'est servi de la sagesse et de la formation reçue par Joseph lorsqu'il était enfant pour accomplir ses desseins. Et donc, bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Jésus-Christ lui-même. En tant que fils de Dieu, il a également été un enfant à un moment donné. Et en fait, il a vécu sous la garde de ses parents, ici-bas, Marie et Joseph. Et nous avons une référence, Luc chapitre 2, très peu est connu à propos de l'enfance de Jésus. Mais nous avons un exemple dans Luc 2 et le verset 40. Luc chapitre 2 et le verset 40. Donc, parlant de Jésus, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc, il est passé par là. Il a eu une enfance sous deux parents, et puis il était élevé dans un foyer avec des frères et sœurs aussi. Donc c'était un enfant qui est devenu notre sauveur, notre roi des rois à venir bientôt. Mais il faut considérer que il y a quand même chez nous des exemples à renforcer aussi. Et Jésus était un enfant. Celui qui nous enseigne, celui qui nous a guidés jusqu'à ce point, c'est Jésus-Christ, c'est le Père. Et nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants que Jésus-Christ est passé par là, qu'il a connu l'enfance. Et il connaît il aime les enfants, et il connaît les difficultés de l'enfance, il connaît les joies de l'enfance, et il connaît aussi la relation que les enfants ont avec leurs parents. Donc c'était un apprentissage aussi, dans ce sens. Donc l'apôtre Paul, plus loin, en continuant à considérant des exemples bibliques, nous constatons que l'apôtre Paul comprenait également l'importance d'une bonne éducation des enfants. Il a renforcé ce commandement, cinquième commandement dans les 10 commandements, pour honorer ta mère et ton père. Donc, il l'a mentionné dans Éphésiens chapitre 6. Donc, considérant Éphésiens, chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, où l'apôtre Paul a écrit ceci, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » En tant que parent, j'ai envie de répéter ça une fois. « Obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Et puis, qu'est-ce que nous lisons au verset 2? « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Donc, dans quelques versets ici, juste après avoir discuté la relation entre les maris et les femmes, et Christ et l'Église, Paul mentionne ici aux Éphésiens cette relation primordiale, importante, et dans le contexte de l'Église. Cette relation a un impact sur l'Église, et cette relation est impactée ou influencée par les membres de l'Église. Donc, nous considérons le contexte du foyer familial. Mais en même temps, à chaque fois que nous assemblons une famille. Nous sommes une famille. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous honorons aujourd'hui, le jour du sabbat, notre Père céleste. Mais nous avons aussi des enfants parmi nous qui sont là et qui font partie de l'Église. Et même si nous devenons adultes, quand nous devenons adultes, ce commandement, le cinquième commandement, ne disparaît pas. Nous sommes tous enfants, même si nous sommes à l'âge d'adulte. Nous avons tous des parents. Alors, il est intéressant que Paul souligne, non pas seulement du côté des enfants, l'obéissance, mais en même temps, au verset 4, l'idée de l'éducation, de l'élever les enfants. N'irritez pas vos enfants, les pères, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, une instruction et une correction se marient bien dans une bonne relation parentale. Les paroles de l'apôtre Paul continuent ici pour nous rappeler d'honorer nos parents. Donc, l'obéissance peut avoir lieu sans l'honneur. Est-ce que vous avez déjà obéi sans honorer ou sans donner le respect à quelqu'un? Vous avez déjà peut-être pensé à ça. Vous pouvez obéir un commandement, mais à l'intérieur, vous pouvez le regretter, n'est-ce pas? Vous pouvez le regretter, vous pouvez être frustré, mais si nous développons l'honneur et la relation avec les enfants et les parents, cette obéissance, on peut pas dire que ça vient tout de suite naturellement à chaque fois, mais ce n'est pas forcé, ce n'est pas l'objectif final, c'est que cette obéissance soit volontaire. Même si des fois ce n'est pas le cas, c'est l'objectif de les guider dans une façon qui les guide envers une obéissance volontaire. Si nous sommes toujours en train d'irriter nos enfants, est-ce que ça va développer l'honneur et une obéissance volontaire? Je ne pense pas. Ils peuvent obéir, mais ils vont pas l'aimer. Ils vont pas aimer le fait qu'ils sont dans cette relation, à un moment donné. Et alors, lorsque nous passons par les petits âges, pour les petits-enfants, tout petits, il y a même à ce moment-là des impressions qui se forment du monde, des personnes, de maman, de papa, de tout le monde. Et il ne faut pas attendre un âge plus loin pour commencer à travailler ces choses. C'est dès le départ, c'est la relation. Même avec un petit enfant nouveau-né, l'idée d'avoir un contact et d'entendre la voix du parent est tellement important. On n'est pas censé de les laisser en tout temps à côté. Ils ont besoin de contact, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Et même sans avoir dit un mot, nous avons commencé à avoir une bonne influence sur cet enfant nouveau-né. Alors que nos enfants étaient nés, nous avions acheté un petit bac qui était fait pour les petits bébés, pour les nouveau-nés, et on l'a mis directement au centre de notre lit, entre nous deux, pour que le nouveau-né soit là en tout temps, à côté de maman et papa. Et il y avait des bords sur les deux côtés pour que nous ne soyons pas en train d'écraser nos enfants. Mais on a dormi avec nos enfants pendant plusieurs mois quand ils étaient nouveau-nés. Et pour nous, c'était une joie. C'était très quelque chose qui nous a beaucoup plu. Et ça a commencé une relation étroite avec nos enfants. Donc c'est une façon de faire. C'est ce que nous avons fait. Peut-être il y a d'autres techniques, d'autres choses aussi. Mais l'important que je pense que Paul est en train de souligner ici, c'est que la relation, c'est pas, même s'il commence avec cette idée d'obéir, il développe l'idée de comment l'enfant peut agir et comment les parents pourraient agir pour obtenir le résultat idéal. Donc voilà. Le principe, c'est que l'éducation des enfants ne se limite pas à la correction, mais on doit les guider, les élever dans le but de les faire grandir et éventuellement faire pleinement partie de l'Église. Proverbes chapitre 4, c'est un passage qui, pour moi, est assez doux, assez tendre, parce que c'est un passage qui vient de la bouche d'un père envers son enfant. Donc, Proverbes, chapitre 4. Nous avons ce passage, à peu près 13 versets ici, qui, si nous réfléchissons, si nous méditons ce passage, nous entendons bien la voix de quelqu'un qui aime ses enfants, qui pense à ses enfants, qui voudrait le mieux pour ses enfants. Donc, ce n'est pas un père n'importe qui, c'est un père qui a une compassion et un soin pour ses enfants. Donc, j'aime beaucoup le fait que pour plusieurs passages dans les Proverbes, il est indiqué « mon fils ». Mon fils, au début du chapitre 2, c'est mentionné mon fils, au milieu du chapitre 3 et au début du chapitre 3, c'est mentionné mon fils. Cette relation parentale est renforcée même ici dans les Proverbes, à travers les Proverbes. On pense à l'éducation des enfants. Bien sûr, des fois, ça prend l'âge d'adulte pour apprendre certains proverbes et les mettre en pratique dans notre vie d'adulte, mais ça n'empêche pas qu'on commence à les intégrer pour nos jeunes. Donc, moi, j'ai sélectionné le chapitre 4 ici, le verset 1. Proverbes 4, verset 1. « Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. » Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Combien de fois parlons-nous à nos enfants alors qu'ils n'écoutent pas? On peut dire bien de choses à nos enfants, mais est-ce qu'ils nous écoutent ou pas? Est-ce qu'ils entendent ce que nous disons? Des fois, il faut arrêter. Des fois, il faut s'arrêter et puis gentiment attendre que leur attention soit envers nous. Mais il y a plusieurs techniques pour arriver à ça. Mais l'idée de ne pas simplement parler, et comme une trompette, parler, tout en, sans que l'enfant soit impliqué dans la discussion. Des fois, comme père, on s'exprime. on dit, voilà, ça doit être comme ça, on va partir. Tout le monde à la porte, on donne des commandes, n'est-ce pas, des fois, les pères. Tout le monde dans la voiture. Mais il y a une place pour ces choses-là. Mais il y a aussi une place pour, quand on est un à un et on a vécu quelque chose qui aurait un impact sur l'enfant, il y a une place pour une discussion assise, hein, en intimité. Des fois, c'est mieux de s'isoler aussi, que tous les enfants ne soient pas en train d'entendre la correction pour l'un des enfants. Des fois, on corrige et tout le monde est là, tout le monde entend. Mais les techniques, peut-être les méthodes plus efficaces, c'est d'isoler un petit peu l'enfant et parler calmement avec l'enfant. L'idée d'avoir une attention, c'est tellement intéressant parce que c'est écouter et ça révèle, même ici, si vous pensez jusqu'à quelle date hein, on était en train d'écrire ce proverbe, on avait déjà compris que l'enfant était à côté, mais soyez attentif, pay attention, soyez attentif pour connaître la sagesse. Car, verset 2, car je vous donne de bons conseils. Ma mère et mon père m'ont dit des fois, si tu ne nous écoutes pas, peut-être tu vas apprendre par la voie la plus dure. On va te dire des bons conseils, mais à toi de choisir de les suivre parce que tu apprendras, mais tu peux prendre la voie la plus facile ou la voie difficile. On m'a dit ça des fois quand j'étais jeune. Donc, ne rejetez pas mon enseignement. C'est comme si, encore une fois, c'est un amour intense pour le développement de l'enfant. Dans la voie de ce père, nous observons que ce n'est pas son objectif de simplement se proclamer monsieur en charge, mais que l'enfant puisse recevoir. On dit qu'il y a deux parties de la communication, n'est-ce pas, et dans la transmission de signal. Il y a ceux qui envoient le signal et ceux qui reçoivent le signal dans la communication. Et puis des fois, c'est encore mieux si on peut faire ça de nouveau pour répéter ce que nous avons entendu pour que ça soit bien compris et bien compris qu'on a bien compris. Donc, ne rejetez pas mon enseignement. Pour le bien de l'enfant, ce père s'exprime comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait de suite? Il donne des exemples de sa propre vie. Il se sert de sa propre vie pour illustrer un point important pour son enfant. Verset 3. J'étais un fils pour mon père. Des fois, je dis, combien de fois avez-vous entendu de votre père, votre mère, quand j'étais jeune, comme toi? Mais j'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Donc, il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Parce que il pensait à long terme, n'est-ce pas? Des fois, on obéit ce jour-ci, mais 2, 3, 4 jours, une semaine après, hop, tout est oublié. Mais lui dit, ne te détourne pas. Et puis, verset 6, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Donc, nous avons des paroles de quelqu'un qui se souvient de son instruction et qui transmet son instruction à la prochaine génération, fidèlement. Ça, c'est très bien quand on réussit à transmettre de l'instruction par plusieurs générations. Ça fonctionne, c'est efficace. On n'est pas tous en train de répéter les mêmes erreurs du passé. On avance et on fait du progrès. Combien de fois les familles sont arrachées, sont détruites par les mêmes erreurs du passé. Combien de fois les erreurs du passé sont-ils répétées? On peut, j'ai de bonnes nouvelles pour vous, il est possible de rupturer le cycle, si ça, c'est le cas pour vous. Il est possible de se sortir de ce cycle-là. On n'est pas prisonnier du comportement d'un mauvais parent envers nous. On peut changer, on peut avancer. Dieu nous permet ces choses. C'est quand même la voie qui mène à la vie, qui nous sépare de la voie de destruction. Mais il faut retenir ce que nous apprenons. Alors, voilà une bonne motivation. Si quelqu'un est élevé dans une situation comme ça, est-ce qu'il voudrait répéter ces choses? Bien sûr que non. Donc Dieu est là, sa parole est là, sa parole est puissante. Il reconstruit d'autres fondements que son père, sa mère n'étaient pas capables de construire pour lui-même. C'est tellement puissant, la parole de Dieu. Verset 7, « Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. » Et puis verset 10, « Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. » Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Elle est une meilleure vie. Elle est une vie qui peut-être n'apparaît pas comme la voie du monde, mais elle est une meilleure vie. Elle est une vie meilleure qui nous amène vers la couronne de gloire. Donc, nous avons plein d'exemples dans la Bible. Nous avons plein de proverbes. Est-ce que nous les utilisons? Est-ce que nous les employons dans ces relations que nous avons mentionnées aujourd'hui? Il est important de se servir de ces choses et de ne pas simplement être conduit par les émotions, par notre propre intelligence, parce que, honnêtement, on peut s'éloigner vite de très bonnes méthodes décrites dans la Bible. On peut s'éloigner très vite. Il faut de discipline, il faut une vigilance sur soi, pour rester dans la bonne voie, pour bien accomplir le rôle parental, ou grand parental, ou n'importe quel rôle pareil. Mais c'est une immense responsabilité, si vous imaginez l'influence que vous avez sur un enfant qui va grandir, qui aura ses propres enfants un jour. C'est une immense responsabilité. Mais Dieu nous aide à l'accomplir, si nous sommes à l'écoute. Si nous sommes à l'écoute, si nous devenons de bons modèles. Parce que je crois qu'une chose que nous observons dans tout ce que nous avons lu aujourd'hui, c'est que ce n'est pas simplement répéter des instructions, c'est vivre par ces instructions qui changent, qui fait que ça soit efficace. Donc nous avons ça à retenir, frères et sœurs. Donc, nous voyons que, alors que nous élevons nos enfants, même en 2025, ces principes restent très puissants, très, très à propos de notre jour aujourd'hui. Mais les influences qui entourent nos enfants, je dirais, sont plus fortes et plus omniprésentes que jamais. Est-ce que vous avez l'impression, comme moi, que les influences qui entourent nos enfants sont de plus en plus forts, sont omniprésents, et que ça fait partie de la fin, du temps de la fin, n'est-ce pas? Que dans ce temps de la fin, c'est comme ça que notre monde, notre société deviendra. Mais comment élever nos enfants pour qu'ils soient fidèles envers Dieu, pour qu'ils soient obéissants à l'instruction de notre Père céleste? Bon, je vous ai donné quelques exemples aujourd'hui. Il n'y a pas, je dirais, une formule qui marche pour chaque enfant, qui n'a pas besoin d'ajustement, mais nous avons des principes. Nous avons des principes à suivre. Et donc, dans la prochaine partie de ce message, nous allons vite fait, j'espère, mentionner quelques domaines cruciaux, pratiques, dans la formation morale que nous devons enseigner à nos enfants pendant qu'ils soient jeunes. Donc, il y a quelques années maintenant, ma femme et moi avons guidé un programme à Atlanta pour les parents dans l'église qui avaient des jeunes enfants à l'époque. Maintenant, ils sont tous assez grands. Mais nous avons utilisé une ressource pour ce programme de plusieurs mois et on se rencontrait deux fois par mois. On a utilisé une ressource intitulée « Growing Kids God's Way », donc « Élevez vos enfants de la façon divine ». Et si vous voudriez chercher l'auteur, il s'appelle Gary Ezzo, E-Z-Z-O. Et c'était quand même le support, l'un des supports pour notre programme. Et de par ces programmes, de par ces cours, nous avons trouvé plusieurs clés, plusieurs comportements, plusieurs choses pour nous aider, pour nous épauler comme parents. Et nous avons aussi trouvé certaines synthèses, si vous voulez, certaines listes de choses à se souvenir, à se rappeler pour devenir et rester de bons parents. Et avant d'aller dans les domaines, il y en a que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais juste vous dire que ces choses existent, mais je les ai synthétisées, résumées un petit peu, avec des citations de Monsieur Ezzo et aussi des versets clés pour ces domaines d'instruction, pour amener un petit peu plus de précision sur certains comportements, certains domaines dans lesquels nous pouvons travailler avec nos enfants chez nous. Donc, numéro un, c'est la colère, la maîtrise de soi ou la colère. Donc, si vous pensez du côté spirituel, nous venons de passer par la Pentecôte et nous avons fait vraiment un bon point sur la liste des aspects du fruit de l'esprit. L'un des aspects était la maîtrise de soi. Mais chez les enfants, il faut les apprendre à maîtriser la colère et ça fait partie de la maîtrise de soi, le contrôle de soi. Petite citation de Monsieur Ezzo, les enfants à qui l'on apprend à gérer leur colère avec sagesse deviennent des adultes capables de gérer les conflits avec humilité et maîtrise de soi. La capacité à gérer la colère est un comportement appris, pas un don naturel. Donc, Monsieur Ezzo insiste sur le fait que la maîtrise de la colère n'est pas quelque chose qui est inné, mais c'est quelque chose apprise. Et donc, nous avons la responsabilité, en tant que parents, à modeler et à encourager chez l'enfant la maîtrise de leurs émotions. Et ça veut dire que nous aussi, nous devons s'adresser à nos enfants calmement et nous devons modeler comment maîtriser la colère. La colère est l'une des réactions émotionnelles les plus courantes auxquelles nos enfants seront confrontés. Dès que vous allez voir sur le terrain de jeu, vous allez voir, même à petit âge, c'est à moi. Quand les enfants commencent à dire c'est à moi, alors des fois les conflits peuvent continuer après ça. Et à petit âge, on commence à avoir besoin de maîtriser la colère. Mais les Écritures parlent souvent des dangers d'une colère qui n'est pas contrôlée et la valeur de la maîtrise de soi. Proverbe 14 et le verset 17 est un exemple. pour vous donner des supports bibliques. Proverbe 14. Et le verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Mais, verset 16, la sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Donc, verset 17, c'était celui qui est prompt à la colère. Ben, il va faire des erreurs. Donc, c'est quand même le mauvais comportement. Mais nous pouvons voir aussi un petit peu plus loin au Proverbe 15, verset 18. Proverbe 15, verset 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Donc, voilà des exemples concrets de la Bible. Et encore une fois, nous ne répétons pas simplement les proverbes. Nous essayons de méditer ces choses pour les modeler, pour les démontrer et pour aussi les identifier, pour identifier avant que ça devienne une habitude renforcée chez l'enfant. Donc, c'est pour ça que des fois les parents, et c'est quelque chose que M. Ezo avait mentionné dans le cours, des fois les parents vont laisser passer plusieurs choses. Ils vont laisser passer une certaine quantité de colère, et puis tout d'un coup, c'est comme si ça suffit, et puis tout d'un coup, le parent est agité maintenant, parce que le parent n'a pas agi quand ça a commencé. Donc, à ce moment-là, le parent agit trop tard, le parent est irrité, et sa réponse envers l'enfant est émotionnelle. Donc, même chez les parents, quand nous avons de la correction à porter, il faut choisir le bon moment à intervenir quand nous avons la maîtrise de nos émotions. Je dis ça parce que je sais que même moi, je dois me rappeler de ces choses. Donc, je suis aussi récipient de ce serment, à la fois que quelqu'un qui mentionne ces points. Voilà, on peut maîtriser certaines situations. Par simplement, je crois, Dieu nous a donné des lèvres pour fermer la bouche. On peut fermer la bouche. Et c'est quand même bien des fois qu'on a des lèvres qui s'arrêtent la langue. Parce que la langue, ça peut faire ce qu'il veut. Mais si vos lèvres sont fermées, voilà, vous réussissez à ne pas multiplier le mal dans ce sens-là. Une deuxième chose, en parlant de... la langue, c'est le mauvais langage. Si vous avez des enfants à l'école, des fois ils reviennent chez vous avec des nouveaux mots, avec des mots qu'ils viennent d'apprendre, et ils savent même pas comment se servir de ces mots, mais la société autour de nous les influence à se servir de certains mots, certains langages. Et même des fois, l'enfant s'exprime d'une façon qu'il a déjà entendue, sans connaître le sens. Sans avoir l'implication 100%, il s'exprime parce que c'est émotion et il a entendu ça dans une situation émotionnelle. Il ne réfléchit pas, mais il dit quelque chose sans savoir ce qu'il dit. Ça peut arriver des fois. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? D'après M. Ezo, les mots que prononce votre enfant révèlent l'état de son cœur. Un enfant qui parle de manière irrespectueuse ou dure a besoin de plus qu'une simple correction. Il a besoin d'un nouveau cœur. Donc, notre effort, c'est de changer pas simplement le comportement extérieur, mais le cœur, bien sûr. On vise toujours le cœur. Et nous comprenons bien que le mauvais langage, ça sort de l'intérieur de l'homme. Pour aller plus vite, on va passer au suivant, le mensonge, le troisième domaine, le mensonge. Le mensonge, quand même, c'est quelque chose qui s'apprend jeune aussi. Puis, Monsieur Ezo dit à propos du mensonge, « Le mensonge est une habitude acquise et comme toutes ces habitudes, il doit être corrigé dès son apparition. Un enfant qui ment sans être corrigé deviendra un adulte qui apprécie la tromperie. » Donc, il faut toujours imaginer l'avenir de ce comportement. Est-ce que nous cherchons à laisser nos enfants devenir des personnes qui sont trompeuses? J'espère que non. Mais ceci souligne l'importance de l'intervention, encore une fois, quand on s'adresse au mensonge. On ne peut pas attendre trop longtemps. On ne peut pas laisser passer ces choses. Et il faut quand même démontrer à l'enfant que vous allez le tenir responsable de son mensonge, de ses mots. Et s'il, même souvent, des fois, on dit, oui, maman, je vais faire ça. Et puis, 15 minutes, 20 minutes après, on n'a même pas commencé à le faire. Est-ce que c'est un mensonge? Oui, ça devient un mensonge. Si c'est quelque chose comme ça, c'est comme un engagement, je vais le faire, et puis, on n'a pas fait, on n'a même pas pensé à commencer. Ça peut représenter un mensonge. Des fois, on a des distractions et des choses comme ça, mais on peut veiller sur ces choses pour valoriser la parole. Quand on donne sa parole, et on l'accomplit. On l'accomplit avec force, avec résolution. Domaine numéro 4, c'est la restitution. L'idée de ne pas voler, de ne pas voler les choses. Donc, Monsieur Ezo a dit, lorsque les enfants prennent quelque chose qui ne leur appartient pas, nous devons les aider à comprendre que ce n'est pas simplement l'acte de vol qui est mauvais, mais la malhonnêteté qui révèle sur l'état de leur cœur. Donc, encore une fois, nous avons un enfant qui a volé quelque chose, mais en même temps, quand cet enfant dit « c'est à moi » et ce n'est pas à lui, c'est un mensonge tout en même temps. La Bible, bien sûr, prend le vol au sérieux et il est important que nos enfants comprennent la valeur de l'honnêteté et de l'intégrité et le respect des biens des autres. Numéro 5, le pardon. Le pardon. On peut travailler sur le pardon vis-à-vis de la vengeance qui est naturelle. On travaille sur le pardon. Intéressant, Monsieur Ezo a dit, le pardon n'est pas simplement un sentiment, c'est un choix. Apprendre aux enfants à pardonner, c'est leur apprendre que la vraie liberté se trouve dans l'abandon de la colère et du ressentiment. Intéressant, c'est un choix. Le pardon, c'est un choix d'abandonner la colère. Je pense que nous avons tous quelque chose à apprendre là-dedans, comme bon rappel. Donc, Monsieur Ezo nous rappelle que c'est un choix actif, ce n'est pas juste une réaction de pardonner. C'est un choix et c'est essentiel pour enseigner à nos enfants à pardonner aux autres, tout comme Christ nous a pardonné. Donc c'est une décision et nous avons des outils pour le faire. Et puis numéro 6, pour manque de temps, je dois aller assez vite aujourd'hui. Numéro 6. Excusez-moi. La paresse, numéro 6, le domaine, paresse vis-à-vis de la diligence, si vous comparez les deux, la diligence, bonne qualité, la paresse, quelque chose à éviter. Donc, on peut travailler dans ce domaine-là. Monsieur Ezo dit, un enfant paresseux deviendra un adulte suffisant. Pour enseigner la diligence et la responsabilité, nous devons fixer des attentes élevées à nos enfants et les aider à comprendre la valeur du travail acharné et de la persévérance. Donc, je crois que notre société, de plus en plus, n'encourage pas la diligence, mais encourage la paresse, la vacance, l'absentisme et l'idée d'être très présent et de travailler dur devient de moins en moins fréquent, de moins en moins répandu. Mais voilà, la paresse peut être un obstacle à la réussite. Donc, nos enfants ont besoin d'accomplir des choses pour augmenter leur confiance en eux. Et si nous permettons la paresse et si nous modélons la paresse, si c'est ça notre modèle, alors nos enfants ne vont pas développer une confiance en soi, ne vont pas pouvoir avancer sur des choses qui les préparent pour l'adultisme. Proverbe 12, verset 24, comme référence, Proverbe 12, verset 24, « La main du diligent domine, mais le paresseux est astreint aux travaux forcés. » Excusez. Donc, la main du diligent domine. Numéro 7 et dernier domaine, l'obéissance aux parents. Donc, je reviens à cela parce que c'était l'un des clés, l'un des domaines que Monsieur Ezo avait identifié. Et c'est peut-être, ça peut sembler un peu répétitif, mais l'obéissance, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pas, comme Proverbe 4 nous a dit, ce n'est pas juste une obéissance, c'est comme Éphésiens 6 nous a dit, c'est une relation, c'est travailler sur la relation qui développe l'obéissance. Et écoutez à ce que M. Ezo m'a dit, nous a dit à propos de cet objectif-là. L'obéissance n'est pas une soumission aveugle, mais une reconnaissance de l'autorité de Dieu. Apprendre aux enfants à obéir à leurs parents leur apprend à honorer Dieu et à se fier à sa sagesse. Donc, l'obéissance demande l'humilité, demande une soumission à la volonté de Dieu, mais ça commence au foyer familial avec la soumission, l'obéissance aux parents. Donc, c'est ça, nous avons déjà lu l'emphase de l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, à propos de ce commandement et cette obéissance pratique et nécessaire. Donc, en conclusion, j'aimerais bien que nous continuions à réfléchir sur ce que nous allons faire avec nos rôles, nos bénédictions données. Est-ce que nous allons améliorer notre fonction, nos capacités en tant que parents, grands-parents, oncles, tantes, n'importe qui auquel nous avons influence, mais en particulier chez les jeunes. Les 7 domaines, j'espère, seront utiles pour avoir des points pratiques. On pourrait donner d'autres messages, des sermons supplémentaires, mais ceci nous donne quand même un aspect assez pratique pour se concentrer sur des objectifs très précis. Mais en général, la responsabilité de parents est une mission sacrée, c'est une bénédiction et c'est quelque chose de très exigeant. Si vous pensez que votre rôle en tant que parent normalement va durer le reste de votre vie dès que vous le commencez, ça commence à être assez important, n'est-ce pas? Et donc, nous devons nous rappeler d'être de bons parents, d'être de bons exemples, d'être des modèles et des imitateurs de Christ, et c'est Dieu qui va nous aider, qui va nous donner la force de continuer comme comme parents et aussi de devenir de meilleurs enfants de Dieu au sein de l'Église aussi. Donc, j'aimerais bien quand même voir et parler avec chacun de vous sur vos idées là-dessus, à ce sujet. Comment voyez-vous le rôle parental? Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre foyer dans le passé? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme technique qui fonctionne, qui marche chez vous, et des choses qui ne fonctionnent pas? C'est quand même un sujet qui pourrait nous unir si nous comprenons que nous travaillons tous d'une façon ou d'une autre sur de différentes choses. Et en fait, c'est ça qui nous a beaucoup encouragés quand nous avons fait le cours, le programme à Atlanta. C'était parce qu'on partageait les choses vécues de semaine en semaine avec les autres parents et on se sentait pas seul. On se sentait en train de faire les mêmes efforts, de faire les mêmes choses. Il y avait tellement de récits qui ressemblaient aux nôtres et c'était tellement amusant et encourageant. Donc, j'espère que ce sermon vous a encouragé aujourd'hui et j'espère que nous allons tous nous référer à ce livre, la parole de Dieu, comme guide pour notre rôle parental.